personnage Eric on a tout de suite balancé. Déjà, juste le petit peuple est assez nombreux, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'entends moi par petit peuple, histoire qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. Ce que j'entends par petit peuple, c'est vraiment toutes les créatures féeriques qui sont humanoïdes. Ça veut dire qu'elles ont un physique qui s'approche un petit peu du physique humain, dans le sens où elles vont être souvent bipèdes. Ils vont avoir des mains qui peuvent utiliser des objets, des choses comme ça. Ils vont pas tous, mais souvent avoir un langage ou quelque chose. Enfin, voilà. Ils vont ressembler à des humains, mais en même temps, ils ne sont pas humains. Ce sont des personnages merveilleux, féeriques, fantastiques. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités magiques, ou pas forcément quelque chose qui les différencie, nous aussi. Ça peut être simplement qu'ils vivent dans un autre monde. Donc en fait, voilà, ce sont tous les personnages de la famille des fées, des elfes, des trolls, des gobelins, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer parce que bon, il y en a un petit peu. Alors, voilà, donc ces personnages, en fait, ils se trouvent, c'est ça qui est vraiment intéressant, qu'ils existent a priori depuis l'homme, en fait. Aussi longtemps qu'on remonte dans l'imaginaire, en tout cas dans les textes qu'on a retrouvés, il y a des personnages de ce type-là. Alors, ils ne ressemblent pas forcément aux personnages qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, hein, si vous remontez à l'Antiquité, à l'épopée de Gilgamesh, etc., vous n'allez pas avoir une petite fée clochette qui se balade. Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est des personnages qui ont la même fonction, c'est-à-dire qui ont le même comportement, qui vont avoir des choses en commun. Pour vous donner quelques exemples, à l'Antiquité, on a par exemple les faunes. Les faunes qui sont ces petits personnages avec à moitié humains, mais à moitié aussi animaux, hein, qui ont des pattes de chèvre, par exemple. Voilà, vous avez des personnages de ce type-là, qui ont ce côté un petit peu foufou, qui ne sont pas vraiment comme nous, mais qui ont ce comportement, on va dire, féerique. Ensuite, au Moyen-Âge, là, tout de suite, l'image de la fée va beaucoup se développer, par exemple. On retrouve dans la littérature arthurienne, hein, par exemple, la fée Viviane, la fée Morgane. L'image, d'ailleurs, de la fée et de la femme sont très peu différenciées au Moyen-Âge. Une femme, une fée, voilà, dans les livres, souvent, c'est un peu la même chose. Vous avez aussi des figures un peu plus hybrides, comme la fée Mélusine, par exemple, qui est à moitié serpente, qui se transforme. Donc là, c'est pareil, elle est à moitié femme. Mais le samedi, quand elle prend son bain, elle devient un serpent, un dragon, en fait, etc. Donc, assez discret. On a du mal à savoir qui sont ces personnages. Ils ont un côté mystérieux, mais ils ont aussi un côté humain. Ensuite, alors là, il y a ce que tout le monde parmi vous a dû lire, c'est à partir du siècle classique, du XVIIe siècle, on a commencé à mettre à l'écrit les contes de la culture populaire. Vous connaissez tous, par exemple, les contes de Béraud, hein, qui sont les plus célèbres écrits à cette époque, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu toute une mode des contes de fées qui a continué après. Vous avez aussi les frères Grimm quelques siècles après, etc. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les contes de Béraud, il y a tout un temps une question, est-ce qu'ils ont été écrits pour les adultes ou pour les enfants? Peu importe la réponse, ce qu'on sait, c'est qu'à la base, les contes populaires, tout le monde se les racontait. On se retrouvait le soir au village au coin du feu, et puis on se racontait des histoires à toute la société. Et puis petit à petit, les contes ont été destinés un peu plus aux enfants. Tout simplement parce que, ça c'est surtout quelque chose de typiquement français. Dans les pays anglo-saxons, c'était un peu moins vrai, mais dans les pays français francophones, en tout cas, on s'est dit, on a commencé à dire, c'est pas super sérieux comme thématique, donc c'est quelque chose qu'on va faire lire aux enfants. D'ailleurs, Perrault le dit dans l'introduction de ses textes, hein, donc ça date pas d'hier, donc petit à petit, on les a de plus en plus destinés aux enfants. D'ailleurs, les frères Grimm, eux, ils destinent leurs contes au foyer et à la famille, mais bien sûr en destinant surtout les enfants à qui on doit transmettre un petit peu une morale, etc. Donc voilà un peu la tradition historique, on va dire, et ça a continué de se développer au cours des siècles. Hein. Alors, dans les pays anglo-saxons, vous avez la famille d'Angleterre qui se plaît à se dire descendant du roi Arthur et puis des fées, etc. Puis en France, nous, on a un peu laissé tomber ça à la fin du 19e siècle parce qu'on a eu Jules Verne, et on s'est dit c'est quand même vachement plus classe Jules Verne, c'est la science et tout, c'est plus sérieux. Donc le reste, on a un petit peu mis ça de côté. Ça n'a pas empêché quelques auteurs comme Apollinaire de développer ces figures, mais plutôt d'un point de vue poétique. Mais voilà, on a un peu laissé tomber. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que au niveau de la littérature de jeunesse, à la fin du 19e siècle, et surtout au début du 20e siècle, on a commencé à changer notre vision de la littérature pour les jeunes. Parce qu'à dans la vie. Puis à partir de, voilà, du début du XXe siècle, on a commencé à faire de la littérature pour divertir. Un but purement ludique, en fait, voilà, quelque chose qui amuse, qui soit plaisant, mais qui n'instruise pas forcément les jeunes. Et l'œuvre la plus célèbre qui a entamé vraiment cette dynamique, c'est Peter Pan de James Matthew Barry, qui a été publié en 1911, il y a la pièce de théâtre un petit peu avant. Et donc voilà, c'est la première vraiment œuvre qui n'a aucun but éducatif pour les enfants. Le but, c'est vraiment de leur faire plaisir. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute une dynamique qui a été lancée. Ce qui est d'ailleurs marquant aussi du point de vue de cette œuvre, c'est que c'est la première qui a commencé à se développer sur plein de supports différents. Donc James Matthew Barry, au départ, lui, il a écrit une pièce de théâtre. Et puis très rapidement, on a fait... Alors même lui, il était pour que d'autres auteurs récupèrent son imaginaire et le développent sur d'autres supports. Donc d'ailleurs, c'était les débuts du cinéma aussi, donc il y a eu des films, et ensuite il y a eu les romans que lui-même a écrits, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu vraiment toutes sortes de choses au cours du XXe siècle, puisque le XXe siècle, c'est le siècle où on a développé sur tous les supports. Aujourd'hui, vous avez des jeux vidéo sur Peter Pan, des séries, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et puis, donc, ça, c'est vraiment, ça s'est développé dans tous les pays. Sauf que, comme je vous le disais, en France, on était un petit peu plus frileux vis-à-vis de ça. Et il se trouve que tout cet imaginaire un peu féerique, fantasy, etc., c'est vraiment arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale. Un peu avec le plan Marshall, avec les échanges, etc. Et donc voilà, c'est arrivé à ce moment-là en France, mais c'était que des traductions de textes anglo-saxons au départ. On n'écrivait pas de fantasy, en tout cas ça n'a pas été publié. Et on va dire les premières choses qui ont commencé à arriver en France un peu sur cet imaginaire, c'est vraiment passé par la jeunesse, avec notamment le journal de Spirou, le journal belge qui a notamment en 1958 développé ses petits schtroumpfs en fait. Une invention purement contemporaine, mais qui sont aussi finalement liées un petit peu au petit peuple, hein, puisque c'est des petits lutins de l'heure, finalement, rien de plus. Et à partir des années 70, là, le mouvement un peu hippie, New Age, etc., ça a fait revenir l'imaginaire en France. D'ailleurs, on a traduit Tolkien à ce moment-là, il n'était pas traduit jusqu'à présent, il est traduit en 72-73 pour Seigneur des Anneaux. Donc ça a ramené cet imaginaire, il y a aussi le développement. Pas mal de médias, et là le journal de Spirou était encore là en fait, et a commencé à publier ce qu'on appelle le grand fabulaire du petit peuple, qui a été fait par Pierre Dubois et René Haussmann. Pierre Dubois, l'élève de Colombe, vous en parlerez juste après, et René Haussmann qui est un illustrateur en fait. Donc ils ont publié dans le journal, en fait voilà, enfin, c'est pas super belle image, je suis désolée, mais vous avez en fait voilà, une petite page dans laquelle qui présente à chaque fois un personnage du petit peuple. C'était pas tout dans chaque numéro, mais dans un certain nombre de numéros, il y a eu voilà, ces présentations-là qui plaisaient plutôt bien à l'acteur. Et ces mêmes auteurs ont ensuite publié une bande dessinée donc, qui a commencé dans le journal de Spirou et puis qui a été publiée en bande dessinée autonome. C'est Laïla, qui présente l'histoire d'une petite fille en fait, qui est élevée par Petit Peuple. Donc, je parle de ça parce que Pierre Dubois, c'est un peu à lui du comptoir autour du Petit Peuple en France en fait. Parce que Pierre Dubois, c'est lui. Déjà, vous voyez son look, hein, c'est un personnage. Voilà, la barbe, la pipe. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas internet, que des courriers. Il est très difficilement joignable, je pense que Marie-Claude, c'est un peu plus facile peut-être. Mais voilà, puis dans les années 70, il a commencé à parcourir la France. D'ailleurs, il est assez connu parce qu'il avait un grand manteau puis un corbeau toujours sur l'épaule. Et il allait recueillir en fait les contes des villages, un petit peu comme on fait les frères Grimm. Et donc lui il a fait pareil avec les vierges françaises. Sauf que bah, il ne trouvait pas justement à se faire éditer en France, puisque comme je vous le disais, les éditeurs français, le petit peuple, c'était pas du tout sérieux, ils n'avaient pas envie du tout de publier ça. Mais donc, grâce au fait qu'il s'est fait connaître un peu par exemple le journal de Spirou, il a aussi fait pas mal d'émissions de radio et de télévision dans le nord de la France dont il est originaire, donc il a réussi à se faire connaître. Et en 1992, donc 20 ans après le début de ses recherches, il a enfin réussi à se faire publier et il a fait publier sa grande encyclopédie des lutins. Donc il a eu beaucoup de mal à l'imposer à la maison d'édition, mais quand il est parvenu, il se trouve qu'en fait, il a eu un immense succès. L'œuvre s'est très bien vendue, et ce qui fait que Pierre Dubois il a été invité dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, et lui, il se moquant un petit peu de cette mode-là, quand on lui a demandé en fait qu'est-ce qu'il était, lui, il a dit. il a inventé ce mot parce que selon lui, en fait, il dit en fait ça sonne comme une science et ça pose son âme. En gros, c'est un moyen de montrer que on dit que c'est pas sérieux, mais que voilà, il y a quand même une science, etc. Et il se trouve que les gens ont cru à ça. Il y a plein de gens qui ont cru que les psychologues c'était un vrai métier, et il a reçu plein de lettres de gens qui demandaient bah, quelles études fallait faire pour être psychologue. Donc lui, en plus, il en a joué, donc après, il a écrit un manuel de psychologie qui a bien marché aussi. Et donc, bah, c'est ce qui est important en fait là, c'est de montrer que en inventant ce mot, ça témoigne en fait d'un changement de la conception de l'imaginaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quelque chose de pas sérieux, à partir de ce moment où on a un mot qui fait scientifique, qui fait bien, on s'est dit ah ouais, mais en fait, c'est bien, c'est cool. Donc là, tout de suite, l'imaginaire féerique a commencé à bien se vendre et à vraiment avoir une nouvelle dynamique. Et donc, dans cette foulée-là, il y a eu justement la fantaisie française qui a enfin commencé à se développer. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a les premières maisons d'édition vraiment destinées à la fantaisie qui ont été développées, avec notamment la création des éditions Nemos, qui sont les premières vraiment à avoir publié cet ouvrage. Et en 1995, vous avez le premier succès de fantaisie française, donc les Chroniques des Crépusculaires de Mathieu Cabré, qui en plus développe le petit peuple. C'était pas de la vraie fantaisie ou un petit peu fantaisie, c'était de la fantaisie, on va dire, féerique. Le petit peuple faisant dès les débuts de la fantaisie française. Donc voilà, donc moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous dit cet imaginaire? Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il se trouve que cet imaginaire est très ancien et a connu en fait tous les mouvements de la société, les évolutions sociales, etc. Il a résisté. Et mon hypothèse, en fait, c'est qu'il témoigne, en fait, qu'il parle à chaque époque, à chaque société, parce qu'il apporte des choses intéressantes aux gens qui vivent à cette époque-là. Et donc, si à l'époque, on avait vraiment une culture propre à chaque village, hein, maintenant, aujourd'hui, on est dans une société de mondialisation, où finalement, bah, un état, s'il est connu à tel endroit, il sera connu à beaucoup de monde, et aussi, en principe, grâce au succès, aux échanges de livres, etc. Donc, par exemple, je ne sais pas si je prends le Moyen-Âge, déjà chaque village n'avait pas forcément la même langue. On ne parlait pas d'un village à l'autre, des fois on ne se comprenait pas forcément si on était à 15 km les uns des autres, parce qu'on était dans une culture beaucoup plus fermée. Mais à cette même époque, chaque village avait sa propre entité féerique. Donc chaque village avait son butin, sa fée, mais on leur donnait des noms dans la langue locale. Ce qui fait que ça créait comme des toutes sortes de créatures différentes. Et puis petit à petit, quand les villages ont pu communiquer les uns avec les autres, on a regroupé, on s'est rendu compte que c'était les mêmes figures, donc il y a des noms un peu plus communs qui se sont libérés, comme par exemple, Follet ou Dame, par exemple. On parle souvent d'ailleurs, vous avez déjà entendu parler des Dames Blanches, qui sont bord des routes, c'est des gens qui vont faire des accidents de voiture. En fait, elles ne viennent pas des premières voitures. Là, on dit qu'il y a une Dame Blanche, c'est qu'il y a peut-être 300, 400 ans, on disait qu'il y avait déjà quelqu'un qui venait hanter les lieux, qui enlevait les enfants le soir à la nuit tombée, ou je ne sais quoi. Puis après, avec le temps, bah, c'est devenu une dame qui crie au bord de la route et qui fait déraper les voitures dans le fossé. Donc voilà, les dames, c'était comme ça qu'on les appelait avant. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un peu une confusion entre les femmes et les filles. Et puis finalement, avec les guerres, par exemple, quand les anglo-saxons ou les pays germaniques, etc., sont venus chez nous, on a fait la guerre, etc., bah, ils ont aussi ramené leurs personnages et surtout leur vocabulaire. C'est là qu'on a des mots comme, par exemple, elf ou troll qui sont arrivés dans la langue, mais qui ont été utilisés par les gens, en tout cas, comme des synonymes de leur propre vocabulaire. C'est pour ça que chez nous, un elf, ça va être plutôt un personnage petit, qui ressemble à un lutin, qui ne ressemble en rien aux elfes qu'on trouve dans les pays anglo-saxons ou scandinaves. Et cette différence, on la retrouve encore aujourd'hui dans les fictions, d'ailleurs, en fonction de ce dont s'inspire un auteur. Si je prends un exemple que tout le monde connaît, les elfes chez Tolkien et chez Tikarion ne sont pas du tout pareils. Chez Tolkien, l'elfe, c'est ça, c'est grand, blond, super beau, classe. Et puis, chez Tikarion, un elfe, c'est ça. Beaucoup moins séduisant, plus petit, la peau fripée, Ils ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, on les appelle tous les deux des elfes. Donc voilà, parce que c'est pas le même vocabulaire, on se dit ça c'est un elfe aussi. Pour le mot fée aussi, fée, c'était pas forcément l'image qu'on a aujourd'hui. Le mot fée, au Moyen-Âge, ça représente simplement une entité magique. Ça peut être une personne, ça peut être un objet. Si vous relisez le conte de la Barbe Bleue de Charles Perrault, on vous parle d'une clé qui est fée. Tout simplement parce que la jeune fille, victime de la Barbe Bleue, n'arrive pas à effacer le sang qu'il y a sur la clé, et donc c'est une clé magique, donc elle est fée. C'était vraiment un terme de dire magique. Puis petit à petit, ça a été employé pour des personnages humanoïdes, et puis après, ça s'est même complètement spécifié, surtout sur les entités féminines. Alors qu'au Moyen-Âge, on a aussi des hommes qui sont failles. Ensuite, vous avez aussi des personnages qui, au contraire, vont être identiques mais ne vont pas porter le même nom. Un exemple aussi, là, vous connaissez absolument tous, c'est les lutins du Père Noël. Des fois, on les appelle les elfes, des fois, on les appelle les lutins. Pourtant, on les représente à peu près toujours de la même façon. Donc là, ça montre aussi que le vocabulaire, finalement, n'est pas précis. Et c'est pour ça que moi, je ne dis pas que je travaille sur les elfes, ou sur les lutins, ou sur les trolls, mais que je travaille sur le petit peuple en général, parce qu'il y a tellement de confusion que ce serait trop difficile de différencier qu'est-ce qui est du petit peuple, qu'est-ce qui n'en est pas. Déjà que moi, j'ai eu des problèmes, par exemple, avec la sirène. Est-ce que la sirène, c'est du petit peuple, est-ce que ça n'en est pas? Oui, mais si elle ressemble plus à une ondine, c'est du petit peuple. Par contre, si c'est vraiment la sirène, voilà, la femme poisson, je vous dis, elle est épanouie. Si c'est la sirène oiseau, là, je suis tout, parce qu'elle est plus humanoïde. Donc, vous voyez, il y a vraiment des questions assez compliquées. C'est ça l'imaginaire, c'est qu'il y a tellement de choses, que c'est pas du tout précis. Et on a aussi beaucoup de stéréotypes. Hein. C'est-à-dire que si moi je vous parle, je parle en elfe, vous avez tous une image qui va se mettre dans votre tête. Donc, ça va être soit une image de J.K. Rowling, ça va être une image de Tolkien, ça va être une autre image parce que vous connaissez d'autres choses. Cette image, c'est un stéréotype que vous avez qui a été forgé par des œuvres que vous avez vues, que vous avez lues, etc. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez fort, ce stéréotype, c'est-à-dire que même les auteurs s'inspirent les uns les autres. Notamment Tolkien, qui en plus a été fortement appuyé par la version Peter Jackson, les elfes, maintenant, c'est vrai que tout le monde a une image assez précise de ce qu'est un elfe, même si tous ne sont pas comme ça. Vous avez par exemple dans cette bande dessinée-là, là les elfes sont bleus, ils ne sont pas blonds, mais on regarde le côté grand, élancé, plutôt attirant, plutôt séduisant. Un autre stéréotype là qui a encore plus marché, c'est le stéréotype de la fée clochette.
Attention s'il vous plaît, la petite Léonie Van Herpen, âgée de 7 ans, est attendue immédiatement sur le stand de Carla Pteuroliste. Merci.
On est parti du temps. Donc voilà, le stéréotype de la fée clochette, qui lui, donc, vous connaissez tous par Disney. Comme je vous disais tout à l'heure, avant Disney, il y a eu James Matchbury qui a écrit son roman Peter Pan, sa pièce de théâtre. Mais avant aussi, sauf que Barry s'est inspiré d'auteurs britanniques du XVIIe siècle, à savoir quelqu'un que personne connaît qui s'appelle John Ely, qui a écrit en 1591 une œuvre qui s'appelle Endymion, des petites fées, on a déjà de petites tailles. Mais surtout, ce stéréotype vient de William Shakespeare, qui lui a développé plusieurs personnages du petit peuple, la Fenola, Puck, Oberon, Titania, etc. Personnages qui, justement, sont souvent repris dans les œuvres de fantasy contemporaine. Il y a beaucoup d'auteurs qui mettent en scène, par exemple, un royaume féerique gouverné par Oberon et Titania. Vous n'avez par exemple, je ne sais qu'un exemple, mais dans le Paris des Merveilles de Pierre Pével, voilà, la reine Titania, c'est elle qui règne sur ce royaume. Vous avez aussi d'autres personnages qui sont beaucoup plus récents, qui ne sont pas issus du folklore, mais qui ont été inventés par un auteur à un moment précis, et qui ont tellement bien marché que ça a créé aussi des stéréotypes qui sont presque similaires aux stéréotypes qu'on a dans les œuvres traditionnelles. L'exemple le plus frappant, c'est Tolkien qui a inventé les hobbits, qui a inventé les orques, et qui sont repris dans beaucoup d'autres ouvrages, comme par exemple voilà, dans cette bande dessinée Gobelin, où on retrouve ce personnage dans un point de vue un peu parodique, mais ça reste les mêmes personnages. Donc voilà pour tous ces stéréotypes et choses comme ça. On a aussi beaucoup dans les œuvres françaises, un petit peu moins dans les textes anglo-saxons, des réécritures par exemple de la légende arthurienne hein, qui reprennent les fées d'Iliade, etc., Morgane, qui les remettent en scène. Donc ça aussi, c'est des choses qui marquent plutôt pas mal. Mais ces personnages, quand ils ont été inventés, hein, je reste sur un exemple de Milan Rosa, ils ne sont pas créés ex nihilo. C'est-à-dire que ces personnages ne sont pas totalement déconnectés des figures traditionnelles. Je prends par exemple les hobbits. sont assez fidèles à la représentation de Tolkien. Et Tolkien, lui, nous dit qu'ils appartiennent à la branche des hommes. Donc, ils sont apparentés à une famille de personnages qui existent déjà. Dans Donjons et Dragons, ils sont repris sous le nom de Halfling, donc c'est pas vraiment des hobbits, mais bon, ils sont quand même, déjà physiquement, on le voit, ils sont quand même assez proches. Et là, par contre, on nous dit qu'ils appartiennent à la famille des elfes. Donc, là aussi, ils sont apparentés à une espèce qui existe déjà. Pareil, si tu prends des auteurs plutôt francophones, vous avez des créatures qui sont inventées de toutes pièces, mais qui aussi ont pour approcher des créatures qui existent déjà. Par exemple, d'Arthur Minimoys, les Minimoys de Luc Besson. Vous avez aussi les Fedlings de Nadia Coste, qui est d'ailleurs présente là, donc je vous invite à aller voir tout à l'heure. Et vous avez aussi le peuple de l'art de Tommy Lomnes, qui sont des personnages qu'on peut rapprocher des Dryades, des Ondines, en fait, de ces petits peuples féeriques qui s'occupent de la faune et de la flore et de la nature sauvage, en fait, dans l'imaginaire traditionnel. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la fantaisie contemporaine et la culture populaire qui remonte à des générations et des générations. On a aussi, alors là, ça c'est quelque chose par contre de très contemporain, c'est les elfes qui vont s'amuser à développer une espèce et puis faire plein de sous-espèces. Ça, on a de plus en plus. Hein. Par exemple, dans l'elfe de lune de Lady Tyrell, on a des elfes noirs, des elfes dorés, des elfes argentés, des elfes qui volent, des elfes qui vivent sous l'eau, enfin, vraiment toute une quantité d'elfes, qui en plus ne sont pas les seules espèces féeriques, qui vivent au milieu des vampires, des fées, etc. Mais on a cet amalgame d'elfes qui peuvent se reproduire les uns et les autres entre eux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même espèce, mais qui sont différents, ce qui prouve en fait, par exemple, voilà, ils vivent dans des régions différentes, donc c'est un petit peu symboliser la mondialisation, le village, qui avait chacun son entité, etc. Et ça montre surtout que si on les appelle tous des elfes, c'est qu'ils ont le même rôle en fait dans l'imaginaire, tout simplement, ils ont la même place, entre la même chose. Donc si je vous montre tous ces exemples, en fait, c'est simplement pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a l'impression que cet imaginaire est très développé. Il y a plein de choses, on dit avec les nouveaux supports, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc. Il y a plein de créatures, mais en fait, il n'y en a pas forcément plus qu'avant. Il y en a peut-être même moins, parce que les stéréotypes vont être beaucoup plus ancrés qu'avant. Ils vont être beaucoup plus appuyés, et finalement, on va simplement les recontextualiser dans ce qu'on veut leur faire dire aujourd'hui. On peut mettre des ailes dans le futur, on peut les mettre à l'époque actuelle, etc. Mais voilà, ça reste des créatures à peu près similaires. Ce que je voulais vous montrer, c'est Donjons et Dragons, que voilà, dans le jeu de rôle, donc tout le monde connaît Donjons et Dragons. Et cette œuvre a un impact aussi très important dans l'imaginaire féerique, parce qu'elle s'est développée à partir des années 70. Il est arrivé en France, traduit en France dans les années 80, donc exactement dans la même période où l'imaginaire féerique réapparaît. Ce qui montre ici qu'en France, on a peut-être eu besoin d'avoir des images, de ne pas rester d'un côté le conte mystérieux, ouais, c'est populaire, je ne vois pas trop à quoi ça ressemble, mais ça va. Mais on a eu besoin de mettre des images sur les choses. C'est pour ça que le cinéma, c'est pour ça que le jeu de rôle est très important. Il est d'autant plus important que la plupart des auteurs de fantasy ont été rôlistes ou le deviennent en fait. Il y a un lien très fort entre le roman de fantasy et les autres supports. On ne peut plus parler de littérature à proprement parler, c'est vraiment l'imaginaire au sens large du terme. Je vais vous montrer des exemples un peu de fiches qu'on peut voir dans le jeu de rôle pour témoigner du fait que ça casse en fait, ça imprègne les stéréotypes dans notre société. Parce que par exemple, je prends l'exemple du jeu de rôle du donjon de la Bloc.
Dans 10 minutes environ, on a démarré un tournoi d'escrime médiéval au stall Grandeur Nature sur la Lys. Si vous êtes intéressé pour participer à un tournoi d'escrime médiéval tout niveau, rendez-vous dans 10 minutes au pôle Grandeur Nature sur la Lys. Merci.
On va s'attendre à l'escrime médiéval, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc en fait, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces fiches, en fait, là, c'est une fiche du personnage de l'elfe sylvain en général. C'est-à-dire que ça va nous poser tous les stéréotypes de l'elfe sylvain. Donc, l'elfe qui sait bien tirer à l'arc, qui aime bien les animaux, qui les connaît notamment, voilà, qui est plutôt gentil, naïf, qui est capable de chevaucher les animaux, de tirer à l'arc, etc. Donc, voilà, le stéréotype global de l'espèce, on va dire. Ensuite, vous avez le personnage qui est développé de façon plus précise, ça va être son caractère. Voilà, le personnage, est-ce qu'il est un petit peu naïf, quelle est son histoire, là, on voit aussi les stéréotypes de l'être qui est plutôt beau, mais qui n'est pas, voilà, pas forcément fort, par exemple. D'ailleurs, je vous ai mis les personnages principaux de Donjons de la Flotte, qui, c'est ça qui est vraiment intéressant sur cet imaginaire en tout cas, c'est qu'en fait, ils se rapprochent vraiment des personnages qu'on a dans les contes de fées. Parce que ce ne sont pas des vrais personnages, dans le sens où ils ont toute une histoire derrière, etc. Mais ce sont des types, ce qu'on appelle des types de personnages, c'est vraiment le moule, en fait, si vous voulez, qui fait le personnage de base de l'imaginaire. Vous avez, là, vous avez l'être, hein, donc charismatique, qui gagne des tailles de soutien-gorge quand elle gagne un niveau, donc vous voyez vraiment le côté stéréotypé à son paroxysme. Voilà, vous avez le nain qui n'est jamais content et qui fait que râler, et puis de toute façon, il y a Flore qui l'intéresse. Donc voilà, et ces personnages, ils n'ont même pas de prénom. Ils s'appellent l'être, le nain, exactement comme dans les contes. Dans les contes de fées, c'est rare que vous ayez le prénom d'un personnage. Donc, on va dire la princesse. À la limite, ils ont des surnoms. Podal. Oui, d'accord, c'est une fille qui porte une podal, mais on ne sait pas comment elle s'appelle derrière. Donc, quand vous avez des prénoms, ça va être des prénoms les plus communs possibles. Alors, vous avez bah, Anne, ma soeur Anne, c'est un prénom commun. Dans les contes des frères Grimm, vous avez Hansel et Gretel. Pour tout le monde, ça fait Hansel et Gretel. C'est pour le côté universel qui est intéressant.
Thank you.
voilà, de tirer et de couper à tout moment selon le prolétis du héros. C'est pour ça que les marraines de fées, par exemple, elles vont donner des dons à leur filleule et puis les guider au long de leur voyage, etc. On a encore conservé cette logique de guide. Donc Fatum, ça veut dire le destin. Et ce qui est remarquable dans la fantaisie contemporaine, c'est qu'en fait, ces personnages, si avant c'était tout le temps des personnages secondaires, aujourd'hui ça devient quand même souvent des personnages principaux. Donc la fonction de guide est interne en fait à la personne. Souvent il y a un cheminement intellectuel, la personne va devoir évoluer peut-être par elle-même. Parce qu'autrefois elle va avoir un guide. Donc finalement, ce passage en fait entre les mondes, ça peut être ce passage de l'enfance à l'âge adulte, comme vous le disiez, ou ça peut être le passage d'un monde réel à un monde plutôt imaginaire, c'est quelque chose qu'on trouve de façon très très récurrente dans les textes de fantasy. Donc vous avez ces personnages qui vont jouer le rôle de passeurs, qui vont vous permettre d'entrer dans un imaginaire, soit vous en tant que lecteur, qui vont vous faire voyager, parce qu'à partir du moment où vous avez un elfe ou une fée dans un livre, vous savez que vous n'êtes pas dans le monde réel. Tout de suite, ça vous fait voyager dans un autre monde, ou alors le personnage aussi principal. À partir du moment où Hagrid va chercher Harry, Harry, hop, il est transporté dans le monde des sorciers, alors que ça ne fait pas du tout que ça existait jusque-là. Donc il y a ce côté de guide aussi, de choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose de remarquable en fantasy, parce que à la base de toute œuvre de fantasy, que ce soit un jeu ou un film ou un roman, c'est la quête. Chaque livre de fantasy, il faut résoudre une quête, quelle qu'elle soit, que ce soit une quête personnelle, une quête pour sauver le monde par exemple. Mais la quête, bah, souvent, on ne sait pas vers quoi on va. On sait qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce vers quoi ça nous amène. Hein. On témoigne par exemple les aventures de Bilbo et Frodo, hein, et justement au début du Seigneur des Anneaux, bah, Bilbo prévient Frodo, on lui dit c'est une affaire dangereuse pour de franchir la porte. Vous prenez la route, et si vous ne retenez pas vos pieds, il est impossible de savoir jusqu'où vous pourrez être entraîné. Pour tous ceux qui n'ont plus le but, comprennent pourquoi je vous dis ça, parce qu'effectivement, lui, il n'avait pas forcément très envie de se lancer dans l'aventure, et il s'est retrouvé à vivre des choses complètement folles. Donc voilà, il prévient un peu, Frodo, qu'il est arrivé des choses dont il n'avait pas conscience jusqu'à présent. Donc voilà, la quête, c'est vraiment quelque chose d'incertain. Et d'ailleurs, dans beaucoup de romans, par exemple dans Guide des Étoiles des Lucrames, l'autre monde, le monde vers lequel les personnages chérissent, s'appelle le monde incertain.
Les inscriptions sont en cours sur le hall carte.
Et donc, ces personnages qui sont capables de vivre entre des mondes sont présentés, par exemple, dans La Selle et le Gîte de Lersilol. C'est un roman où on dit que l'héroïne principale, elle est née entre les mondes, elle est née entre les portes, entre le jour et la nuit, et au moment où le règne de la saison sombre allait commencer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur une culture un peu plus celte, parce que les Celtes, en fait, eux, le nouvel an celte, c'est la fête de Samhain, c'était le 1er novembre. Ce qu'on a gardé aujourd'hui, c'est aujourd'hui on fait Halloween par exemple, c'est le moment où l'autre monde s'ouvrait vers notre monde et que les personnages, soit les morts, soit les personnages féeriques, pouvaient venir nous visiter en fait. Donc il y a vraiment une notion d'ouverture. Et ces personnages, c'est ça, c'est eux qui sont capables d'ouvrir les portes et de venir visiter notre monde, de rentrer la magie dans notre univers, ce qu'ils font aujourd'hui à travers les ouvrages. Souvent, dans les œuvres de fantasy, on a des œuvres qui sont basées dans un contexte un petit peu passéiste. Hein, vous avez, par exemple, des œuvres comme L'apprenti Merlin ou L'enjeu mineur Pierre d'Ordage, où le monde féerique, ça représente le monde d'avant. Dans L'apprenti Merlin, ça représente le monde d'avant christianisme. Dans la fée Morgane, dans la fée Méliane, elle représente ce monde d'avant, avant que les chrétiens viennent imposer leur religion. Dans l'œuvre de Pierre d'Ordage, c'est le monde d'avant la révolution. Il y a vraiment cette notion de l'ancien monde, ça nous rappelle une autre époque en fait, où les choses étaient différentes pour nous. Une époque peut-être des fois un peu plus sombre, parce qu'on n'avait pas les lumières, par exemple, avant la résistance, c'est les lumières qui ont apporté, qui ont éclairé notre monde. Donc il y a cette notion d'obscurité en fait. On dit souvent dans les légendes qu'il ne faut pas aller se promener en forêt à la tombée de la nuit, parce que c'est là qu'on risque de se faire enlever. Parce que c'est le moment où on est entre le jour et la nuit, et donc c'est là que les portes se ferment. Et l'ombre, c'est quelque chose c'est là aussi qui marque ces personnages. Ça, c'est ce que les psychanalystes ont pas mal étudié. Par exemple, Jung, c'est celui qui a étudié le dessin. C'est le côté que ce personnage va représenter notre ombre intérieure. C'est-à-dire la part un peu
qui va mettre entre deux journées.
dans Gilles aussi d'Alexandre Malagoli, on dit que les trois ont quatre oreilles, deux poumons réels et deux poumons génériques, ce qui montre aussi qu'ils sont à cheval sur deux réalités, qui sont capables de passer les frontières en fait, et d'être dans les deux mondes différents. Et moi, maintenant, la question que je pose, c'est comment nous, en tant que lecteurs, comment le personnage réel, qui est dans un monde réel, bah, il peut rentrer dans cet imaginaire complètement différent. En fait, il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous en présenter trois qui sont les principales développées en littérature de jeunesse, qui sont des schémas traditionnels de comment on rentre dans l'imaginaire quand on est un personnage réel. Le premier d'entre eux, c'est le dispositif du lapin blanc. Vous connaissez tous ce petit personnage, le lapin blanc, qu'Alice, elle suit. Quand elle le suit, puis finalement, elle tombe dans son terrier et elle arrive au pays des merveilles. Donc en fait, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'imaginaires, c'est on suit un personnage et qui nous fait rentrer, en fait, qui nous sert de guide pour nous faire rentrer dans notre monde. C'est notamment quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo parce que ça permet de suivre quelqu'un, hein, notamment dans Zelda par exemple, où il suit la petite fée Mavie pour tout au long de sa quête arriver à sa mission en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier dispositif le plus courant. Ensuite, vous avez le dispositif de l'échiquier. Alors là aussi, ça fait référence à Alice au Pays des Merveilles et à son deuxième voyage. Quand elle retourne au Pays des Merveilles, elle se déplace comme un pion blanc sur un échiquier. Donc elle suit des règles en fait. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle doit suivre des règles du jeu. Et donc là, ça repose sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le fait de jouer, de faire semblant, de vivre à la manière d'eux. Parce qu'Alice, c'est une petite fille qui s'imagine un monde et ce monde devient réel. Si elle parle avec son chat Dina, et ben après il se trouve que lui, son chat est vraiment réel, il vit dans ce monde et devient le chat du Cheshire, un truc complètement merveilleux, complètement fou, etc. Donc il y a un côté d'accepter la fiction, d'accepter d'entrer dans l'imaginaire. Et puis là, le troisième niveau, qui là par contre vous n'acceptez pas du tout d'entrer dans l'imaginaire, c'est le dispositif du cyclone, c'est rapport au magicien d'Oz. C'est quand Dorothy elle est emportée avec sa maison jusqu'au pays d'Oz. Et emportée par accident, elle n'a jamais voulu se retrouver là. Et du coup, c'est une entrée accidentelle dans notre monde qui nous permet d'avoir un regard objectif sur ce monde-là, et surtout sur notre propre monde autour. Parce que Dorothy, à la base, elle s'ennuyait faire dans ce qu'on connaissait à ce matin. Elle n'avait rien à faire, elle s'ennuyait. Finalement, quand elle se retrouve au Big Dose, elle se rend compte qu'en fait, le concept lui manque et que ce n'était pas si mal que ça. Dans d'autres œuvres, par exemple dans Le Grand Mort de Loisel, vous avez l'effet inverse. Vous avez Pauline qui se retrouve dans l'autre monde, mais qui, elle, au contraire, elle se rend compte en étant dans ce monde féerique qu'en fait, sur le monde réel, il n'y a pas d'un. Qu'il y a la pollution, qu'il y a des guerres, qu'il y a des désastres, qu'en fait, il faut peut-être faire quelque chose. Donc là, c'est plutôt un côté de remettre en question, de mettre en parallèle deux univers et de voir comment ils fonctionnent. D'avoir un regard objectif. En fait, à partir du moment où on est dans cet autre monde, c'est là que les choses ont totalement changé. On n'est plus dans le monde réel, et donc les nouvelles règles dont je vous parlais tout à l'heure, on va devoir les suivre. Parce que rien ne fonctionne pareil. Notamment, par exemple, le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps, l'espace, ne sont plus les mêmes. Et donc, le personnage, quand il arrive, il va falloir qu'il comprenne la logique du lieu, qu'il comprenne comment ça marche. Par exemple, dans la plupart des œuvres fantasy, de féerie en tout cas, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. C'est-à-dire que vous pouvez partir 10 minutes dans votre monde et revenir chez vous, il y a 200 ans qui se sont passés, votre maison n'existe plus. Au contraire, vous êtes parti pendant 100 ans, et puis quand vous revenez, il y a pas 10 minutes qui se sont écoulées. Donc il y a vraiment, c'est pas parallèle, il n'y a pas de logique. Et vous pouvez partir une fois, il s'est passé 10 minutes, et partir une deuxième fois dans le même monde, il s'est passé 3 jours. Et ça ne va pas non plus être logique comme ça. Pareillement, la géographie n'est pas la même. Alors, soit vous avez des mondes qui vont être en parallèle, par exemple, là où il y a la Terre, sur notre planète, il va y avoir de l'eau au monde inverse, ou soit vous avez, alors, dans les mondes merveilleux, pas du tout de géographie précise. Là, par exemple, il faut 3 jours pour aller à l'autre bout de la pièce, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de logique, on s'en fiche, ou il faut 30 secondes, tu peux te téléporter dans un autre monde. Voilà, la géographie non plus n'est pas figée comme dans notre monde. Il n'y a pas forcément de logique. Alors là, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce fonctionnement? C'est tout simplement que en fait, la maîtrise de l'espace-temps, c'est un petit peu la quête ultime de l'humanité. Alors, les hommes, aujourd'hui, avec les recherches scientifiques, on essaie de pouvoir comprendre comment tout fonctionne autour de nous, comment on peut maîtriser ça pour s'en sortir au mieux. Et c'est un petit peu comme si les êtres féeriques, on nous raconte qu'il y avait des forces un peu surnaturelles, plus puissantes que nous, permettaient de gagner un petit peu d'humilité. loi morale aussi, qui ne fonctionne pas pareil du tout. On a la morale parce que c'est un concept humain, surtout que par exemple, dans notre pays, la morale elle a été fondée par la religion chrétienne. Bon, voilà, c'est un peu détaché de ça, mais à la base, elle a été fondée là-dessus. Alors que ce personnage disait, pourquoi avant, on était païens, on n'avait pas les mêmes lois, on n'avait pas les mêmes choses. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment dans les textes, c'est-à-dire que la logique n'est pas du tout la même. Vous avez voilà, des choses qui ne vont pas être forcément mal. Là, par exemple, dans le Chronique du Soupir, on dit que la moralité des faits échappe à notre temps. Dans la seule période de Fatalité, on va le dire, c'est des notions hors de propos, parce que la morale, c'est nous qui l'avons forgée, et eux, ça ne les regarde pas. En fait. Ils ont une autre façon de vivre, une façon de vivre beaucoup plus instinctive. Voilà, vous avez, ça n'empêche pas qu'il y ait des leçons un peu morales dans les œuvres. Si je reprends l'exemple du Seigneur des Anneaux, par exemple, bon, voilà, en plus, beaucoup Tolkien était clairement un fervent catholique, donc il y a quand même une morale derrière, mais ça fonctionne différemment. Nous, par exemple, communauté complètement hétéroclite peut vivre sans racisme, en gros, peut s'accepter les uns les autres et réussir à faire de grandes choses. Donc voilà, ces personnages sont rassemblés et ils prennent exemple sur les plus petits aussi. Aragorn demande à être couronné de la main de Frodo. C'est bien qu'il montre que c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il perd la signifiance au papa fou qu'il n'est pas important. D'ailleurs, cette quête elle va permettre d'évoluer à ces personnages, notamment le Hobbit qui entraîne énormément. Et d'ailleurs, eux, ils grandissent carrément physiquement, puisqu'à la fin, ils ont réussi à être un peu plus grands que ce qu'ils étaient au départ. Donc on voit qu'il y a une notion d'évolution, ça apporte quand même quelque chose pour les lecteurs, même si la logique est différente. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait du Hobbit, où en fait, Gandalf explique à Galadriel pourquoi il a choisi Bilbo, ce qui montre que Bilbo, c'est pas parce qu'il est tout petit qu'il n'a pas de valeur.
Imaginez les données psychanalytiques, les données sociologiques qu'il y a derrière.
ce qui est surtout important, c'est ce passage d'un monde à l'autre, en fait. C'est le moyen de... À partir du moment où je suis dans un autre monde, comme je disais que les lois n'étaient pas les mêmes, et bien tout est possible. Absolument tout est possible, mais ça reste lié à mon monde à moi. Je vous donne un exemple. Au début des enchantements d'un grand-mère de Pierre Trenel, les premières phrases du livre, c'est ça. Il était une fois, le Paris des merveilles, où l'on plante des pommes à Paris qui n'exista jamais tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis rattachée à Paris, tout le monde sait ce que c'est Paris, mais c'est pas Paris tel que vous le connaissez. Il y a quelque chose de différent qui va permettre de mettre en scène beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibles. Et dans beaucoup d'histoires, en fait, nos personnages voyagent d'un monde connu vers le monde imaginaire à partir de lieux qui sont des lieux bondés de monde, très publics, etc. Vous avez Center Park, vous avez Kensington Garden, vous allez avoir la Tour Eiffel, vous passez dans le monde féerique à partir de la Tour Eiffel, dans un rail de train, des choses comme ça. Ce qui montre qu'en fait, on passe d'un endroit que tout le monde connaît vers l'inconnu le plus total. L'inconnu le plus total qui va nous permettre de réaliser beaucoup de choses parce que c'est un autre monde. Un autre monde où vraiment tout est possible. Donc cet autre monde, c'est celui de l'autre peuple. Autre peuple qui vit parmi nous. Par exemple, vous avez tous déjà croisé des vestiges, on va dire, du petit peuple, autre que dans la littérature, dans notre société. Ils sont encore très présents. Vous avez tous déjà vu, on a été même chez vous, les nains de jardin. Les nains de jardin, en fait, ça vient de... C'est pas juste des petits nains pour faire joli. À la base, ça vient d'une tradition antique notamment les Romains, en fait, qui honoraient les divinités de la fertilité pour que leur jardin pousse, en fait, tout simplement. Et nous, après, on a perdu ça, parce que déjà, quand on est dans un jardin, on oublie un peu que c'est pour qu'ils fassent pousser nos carottes un peu plus vite. Voilà, on est dans une donnée un peu plus, ouais, ça fait joli, voilà, on se moque, on m'en fiche. Voilà, on a perdu le côté vert, mais ils sont encore là. Ce qui montre qu'ils sont capables de voyager, même si on ne sait plus tout à fait pourquoi. Et du coup, comme ils figurent envers l'autre monde, c'est aussi un moyen que de les présenter, que de les mettre dans son jardin, par exemple, c'est un moyen de ne pas en avoir peur, parce que l'inconnu, bah, c'est plutôt quelque chose qui nous effraie en tant qu'humain, et c'est un peu le côté métaphysique, si vous voulez, si je dis que les personnes qui se sont fait enlever, elles se sont fait enlever par des fées, ou si telle personne n'a jamais revu, mais oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il s'est marié avec un lutin, si je ne sais pas, et c'est un moyen de mettre des mots, de donner une explication en fait à quelque chose qu'on est incapable d'expliquer. Pareil, si quelqu'un peut voler, si quelqu'un a des pouvoirs, je vais pas dire, si quelqu'un fait des choses bizarres, on va dire qu'il a des pouvoirs, ça permet un peu d'expliquer ça. Et il y a d'ailleurs un pasteur irlandais du 15e siècle, je ne sais plus exactement, qui s'appelait Robert Kirk, qui en fait écrivait que ces personnages, par exemple, lui, il les appelle le bon peuple, les bons voisins, parce que en plus, on ne sait pas trop qui c'est, bah, il faut les flatter un petit peu parce que sinon ils vont nous faire des mauvais tours. Donc il y a aussi un moyen de, en leur donnant un nom, en leur donnant une identité, de moins les craindre en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont une capacité en fait, de montrer l'innommable, de montrer ce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus inexpliqué dans les sociétés? C'est ce qui se passe après la mort. Ça, toutes les religions se sont posées la question, toutes les religions essaient de trouver des réponses. Et le petit peuple féerique peut en donner une. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos textes, dans notre imaginaire. Je prends l'exemple du Chant du Trône de Pierre Boteau. C'est un roman, en fait, un livre graphique qui nous présente l'histoire d'une petite fille, Emma, qui voyage un peu dans le monde. Son monde est en train de se transformer. En fait, elle va devoir combattre un monstre. Et ce monstre s'appelle le Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, la petite fille, on se rend compte à la fin, en fait, elle était atteinte d'une leucémie et qu'elle devait se battre contre la maladie. Que finalement, elle, quand elle arrive à la battre, c'est qu'elle est morte en fait, elle est décédée, elle est passée dans un autre monde. Et c'est son père qui est écrivain, qui a inventé cette histoire pour lui se rassurer sur son deuil. Vous imaginez que sa fille, en fait, qui est morte, bah, elle est dans un monde qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus enviable en fait que celui de la vie. C'est un moyen de donner une explication en fait. Elle vit avec un trône là-bas qui va la protéger puisque c'est la figure de la protection, il est costaud, il est fort, etc. Et là encore, moi je me tiens souvent sur les mots, qu'est-ce que ça veut dire. Et il se trouve que le terme fantastique, ça vient d'un verbe grec qui veut dire fantasme, qui veut dire faire voir, montrer, apparaître. Et c'est vraiment que ces personnages fantastiques, ils figurent en fait ce qu'on n'est pas capable de montrer, de représenter, de faire apparaître. Et donc, je reviens toujours sur les mots, bah, il se trouve que bah, ces personnages, ils ont tous des noms qui veulent dire quelque chose. Et les lutins, par exemple, le dictionnaire de l'Académie aussi l'enfant intérieur, parce que c'est les enfants, il faut leur apprendre à avoir des filtres par rapport à notre société, hein, une société à l'autre, on ne va pas être lui-même. Et bien voilà, l'enfant intérieur, c'est personne en nous qui fait des choses un peu folles quand on dit allez, je m'en fiche, je le fais. Et voilà. Et donc pour eux, ces personnages représentent cet individu qu'on a à l'intérieur de nous, qui symbolise en fait l'ambivalence dont je vous parlais tout à l'heure, notre côté un peu animal en fait, qu'on a en chacun de nous. Donc voilà, ils représentent en fait notre inconscient en quelque sorte. Et il se trouve que si ces personnages existent dans toutes les religions, dans tous les pays, dans tout, c'est qu'en fait ils appartiennent à notre inconscient collectif, c'est-à-dire la façon que les êtres humains ont de penser est toujours la même, quel que soit le pays, quel que soit le monde où ils viennent. On a tous cet enfant intérieur, ce discrepant dans notre tête en fait, qui on peut faire des choses et qu'on représente dans l'imaginaire. On va pas le représenter de la même façon, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. On appelle l'inconscient collectif. Donc c'est une image qui est créée par notre inconscient ou notre subconscient, peu importe, pour évoquer en fait des problématiques qui vont être internes à notre personne, soit des problématiques sociales, voilà, plus de ce côté-là que je vous pose en question, qu'est-ce que ça apporte à notre société. Et on retrouve un peu cette image-là dans les chroniques du soutien de Mathieu Gallery, toujours, où en fait on a des humains qui ont fauté, qui ont mal agi, qui ont été trop ambitieux. En fait, quand ils sont punis, il y a la place de leur cœur, on a mis une fée. Ce qui permet de les contrôler, donc on retrouve les tisseuses de destin hein, qui contrôlent les hommes, et qui permet aussi voilà, de figurer cette intention qu'on a en nous qui fait faire des choses sans qu'on le sache. Et là, c'est le fait de se poser la question de l'inconscient, de la fée qu'on a à l'intérieur de nous, ben, ça permet aussi de se poser la question d'une quête un peu plus spirituelle, qui n'est pas forcément une quête qui faut sauver le monde, mais une quête de qui suis-je moi, en fait. Comment je peux prendre conscience de moi-même. Et donc, c'est pour ça que je disais, quand on parle de guide, hein, de personnages qui nous guident dans un autre monde, ça peut aussi être des personnages qui vont guider le lecteur dans son développement intellectuel, par exemple individuel, à travers le personnage qui est mis en scène. On retrouve cette thématique dans Galimette fait blanche en gros de temps, un roman de Maëlle Campier, où on a une fée qui est mise en scène. Et c'est une fée, en fait, elle va devoir essayer de se comprendre elle-même tout au long du chemin. À la base, elle part dans une quête, et puis en fait, elle se rend compte que c'est elle qu'il fallait qu'elle trouve, en fait, qu'il fallait qu'elle prenne conscience de qui elle était vraiment. Et donc, sa quête devient une quête de soi, une quête d'identité, en fait. Et donc, ce petit peuple qui joue le rôle de guide, en fait, vers notre peuple, vers notre monde, on le retrouve aussi dans l'histoire, comme par exemple, je vous en parlais tout à l'heure des enchantements dans le roman, où cet autre monde, on l'appelle l'autre monde. C'est une petite variation. Vocabulaire, mais outre, j'ai pris cet exemple parce que c'est assez représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire outre ? Outre, ça veut dire au-delà, plus loin, plus longtemps. Donc c'est quelque chose aussi, un imaginaire qui nous permet de creuser, que ce soit en nous ou pas, c'est d'aller au fond des choses, en fait, de réfléchir. Ça peut aussi nous permettre hein, d'avoir une vision, on va dire, de catharsis. Alors la catharsis, vous l'avez tous vu au collège, dans les programmes de 5e, mais voilà, c'était un peu flou. Probablement, c'est les Grecs en fait, qui pensaient que quand on allait voir une pièce de théâtre, et ben, s'il y avait de la violence, si c'était hyper violent, nous, ça nous empêchait de commettre des crimes après. Et c'est pour ça, finalement, aujourd'hui, si les gens qui disent oui, Game of Thrones, c'est trop violent, on peut leur dire ah non, c'est la catharsis. Les Grecs qui disaient si je regarde ça, je vais pas aller tabasser mon voisin derrière. Donc voilà, il y a vraiment ce côté d'épuration en fait, des passions grâce à l'art. Voilà, je ne vais pas commettre de crimes, je vais pas faire d'autres choses. Et là, on peut dire qu'à travers l'imaginaire féerique, qu'on est dans un autre monde, bah, tout ce qu'on va faire à travers le personnage, il ne va pas y avoir de répercussions puisque ce n'est pas dans le monde réel. Si à travers le personnage, dans un jeu vidéo, je vais tuer plein de gens, je vois GTA, j'ai écrasé une amie, dans la vraie vie, je n'ai pas écrasé une amie, il n'y a pas de répercussions, mais j'ai pu faire un peu violence et résoudre mes pulsions, j'avais à l'intérieur de moi d'écraser des amis parce que j'en rêvais. Voilà un peu ce que c'est que la catharsis. Mais le problème, c'est que souvent, bah, on dit que les contes vont subvertir les enfants parce qu'il y a des choses mal, ces personnages ils sont un peu lubriques, ils sont super sexuels, ils sont violents, enfin, il y a plein de choses. Oui, mais finalement, si on regarde bien, les contes qu'on fait lire à nos enfants, ils n'ont pas forcément pas une meilleure morale forcément. Moi, je vous prends l'exemple par exemple du petit poussé. Le petit poussé, il arrive à devenir riche en poussant l'ogre à tuer ses filles et en volant ses bottes. Voilà, c'est une super morale qu'on donne à nos enfants quand on leur fait ça, quand même. Vous avez le chapeauté aussi. Le chapeauté, lui, il vole, il ment, il triche, alors sans aucun problème. Et en plus, il n'est jamais puni pour ça. Donc quand on regarde ça, finalement, on se dit, ouais, les contes, en fait, ils ne sont pas plus moraux que la réalité, et pourquoi ne pas leur fournir d'autres choses. Mais comme je vous disais que la morale, ce n'était pas un concept féerique, en fait, ces contes ne sont pas immoraux, c'est-à-dire qu'ils sont contre la morale, volontairement, mais ils sont amoraux, c'est-à-dire qu'ils sont dehors de la morale. Et ça, ça vient de l'origine de ces personnages. Je vous ai dit plusieurs origines, il y en a encore pas mal. Par exemple, on fait descendre ces personnages de la troupe de Bacchus. La troupe de Bacchus, hein, c'est Bacchus, le dieu du vin, des orgies, etc. Donc oui, forcément, si ces personnages étaient dans sa troupe, on peut s'imaginer que voilà, ce n'est pas ceux qui avaient le plus de vertu. On avait aussi, au XVIIIe siècle, on avait développé aussi l'image de la vieille fée lubrique. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut s'imaginer que ce n'est pas la fée clochette. Et il se trouve que le mot lutin, c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient ce mot, mais on a plein d'hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que ça viendrait d'un mot nuto, qui veut dire misanthrope. Et justement, ça, par exemple, dans l'Empitage et les Lances fossiles, on dit que les fées, elles sont misanthropes. Donc pourquoi pas? On fait aussi rapidement que le mot lutin est perdu, ce qui pourrait caractériser un peu les relations qu'on a avec ces personnages qui ne sont pas forcément toujours très sympas avec nous. Ou aussi le mot hutin, qui veut dire entêté, querelleur. Donc là, pareil, on est un peu en contradiction vis-à-vis d'eux. Et si nous corrompre, c'est parce que c'est dans la nature de corrompre. Corrompre, en fait, à la base, ça veut dire changer la nature de quelque chose. Et sauf que certains des membres du petit peuple, c'est des changements. C'est des personnages qui vont enlever les bébés dans les berceaux et mettre un délire à la place. Et on y croyait beaucoup au Moyen-Âge, quand on avait un bébé qui faisait des trucs un peu bizarres, en disant oh, c'est un changement, c'est pas mon bébé, mon bébé n'était pas comme ça. Celui-là, je vais l'abandonner en forêt. C'était plutôt pratique pour abandonner ses enfants sans répercussion de la mère. Et une autre origine, que là, moins de gens connaissent, c'est que les membres du petit peuple, ça pourrait être les descendants de Lilith. Alors Lilith, c'est une figure de la Bible, mais que les catholiques vont un peu essayer de nous faire oublier. Lilith, en fait, c'est la première femme d'Adam, parce qu'Adam, il a une femme. Il a une première femme qui a été forgée comme lui dans la terre. Donc, qui était une femme totalement autonome, et justement, elle refusait de se faire soumettre à Adam, et donc Adam ne s'y pas trop plu parce que lui voulait du mal un peu dominateur. Et donc il y a l'histoire de Dieu qui lui dit ok, bon bah Lilith, tu dégages. Donc après elle est devenue le serpent dominateur, et il lui a fait Ève avec sa côte, histoire qu'elle revienne soumise à lui. Donc voilà, ça peut être des figures un peu de rébellion en dehors du catholicisme. Une autre hypothèse aussi, ce serait que ses enfants, enfin ses petits peuples, ce soient les enfants d'Adam et Ève. En fait, ils ont eu plus de deux enfants, ils n'ont pas eu que Cain et Caleb. Ils ont eu six autres enfants, mais quand Dieu est venu pour rendre visite à Caleb à accoucher, bah, elle n'avait pas eu le temps de se nettoyer, il y en a qui étaient un peu pas super présentables, donc elle les a cachés au fond de la pièce. Et donc Dieu, bah, il a reconnu que les deux enfants qui étaient présentés, et les autres, bah, il a dit bah, tu ne veux pas me montrer, bah, je les condamne à rester dans l'ombre. Donc là aussi, c'est des personnages qui n'ont pas été acceptés par la religion catholique, en fait, qui ont forgé notre morale. Ce qui peut expliquer pourquoi ils n'ont pas un comportement qu'on accepte dans la société qui est basée plutôt sur le moral un peu catholique. C'est pour ça, par exemple, que ces personnages, on les présente comme étant très instinctifs. Voilà, par exemple, là, dans les lois du petit peuple, vous avez des folliti, donc c'est le mot italien pour dire follet, qui ont complètement mangé toute la nourriture lors de leur voyage, non pas pour être méchants, juste parce qu'ils avaient faim. Ils sont instinctifs, ils veulent la nourriture, ils la mangent. Finalement, c'est pareil, on peut laisser une assiette de nourriture devant votre chien, on ne peut pas se poser la question, ah non, ça va mettre, moi je vais la manger. Voilà, avec la fin, ils mangent. C'est aussi des personnages qui sont, du coup, comme je le disais, très lubriques, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas mal dans les textes. Donc, vous avez par exemple, là, dans Sortilège du Bois des Brumes, des petits personnages qui veulent se faire un substitut phallique avec la moustache du chevalier. Donc, ils ont une quête de plaisir sexuel assez développée qui revient souvent dans les œuvres. Voilà, il se trouve que le verbe lutiner, qu'on entend parfois, ça veut dire taquiner et tourmenter une femme, et ça peut aussi, si on développe un peu plus, rentrer dans des choses un peu plus sexualisées. Et puis on rapproche aussi le verbe lutin parfois de loupa, loupa en latin, qui désigne la prostituée. Donc il y a encore ce côté voilà, avec la sexualité, etc. Et il se trouve que dans beaucoup d'ouvrages de fantaisie, et ben, on a des figures féminines qui se prostituent en fait. Comme par exemple dans Magie secrète de la Rue Joubert. C'est quelque chose qu'on retrouve. J'étais assez surprise, je ne m'attendais pas, mais en fait, quand on développe un petit peu, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez présent. Mais donc, ça n'empêche pas que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une éthique. Ce n'est pas parce qu'ils sont en dehors de la morale qu'ils ne sont pas éthiques. Par exemple, chez Spartan, je sais qu'on disait qu'il y avait une éthique au milieu de la féerie, et que c'est parce qu'ils bah, un enfant qui est mal parti dans la vie, par exemple qui est de parents pauvres, etc., mais il peut quand même s'en sortir. On n'a pas besoin d'être une princesse, etc., pour avoir une belle vie derrière. Il suffit de faire en sorte d'y arriver. Et c'est ce qu'a montré Bethelheim, qui a écrit la psychanalyse des contes de fées. C'est-à-dire que ces textes sont une autre. Ils ne veulent pas nous pousser à faire la différence entre le bien et le mal. Ils veulent nous montrer qu'on peut réussir dans la vie. Et donc voilà, ils sont en dehors des concepts générales, de trouver qu'il y a des choses à faire. Qu'il faut avoir une réflexion, qu'il faut forger sa propre conscience. C'est pareil quand on dit qu'il ne faut pas que les gens disent ça parce que c'est pas bien, c'est sexuel, etc., que les gens font des choses mal. Mais si on dit ça, c'est qu'on prend un peu les jeunes lecteurs pour des imbéciles aussi, qui ne sont pas capables de faire la part entre ce qui est bien ou mal. On peut montrer des meurtres, oui, c'est pas parce qu'on montre un meurtre qu'après il va dire c'est cool de faire un meurtre, même si le meurtre est fait pour une bonne chose. Non, c'est que bah, voilà, je suis capable de faire moi-même le lien entre le bien et le mal, et donc de comprendre, de forger ma propre opinion sur une chose sans qu'on me sorte une morale toute faite. C'est pour ça que les adolescents préfèrent lire ce genre de texte que des contes où on nous dit carrément la morale à la fin, en fait, c'est pas pareil, il faut faire ça, parce que voilà. C'est ça que vont nous montrer ces textes. Et justement, dans cet ouvrage, les problématiques des adolescents ressortent beaucoup. On a beaucoup de questions de drogue, des faits qui se droguent, qui sont, on a même du trafic de drogue dans les pays, j'ai perdu le mot d'auteur, ça va revenir. Et donc voilà, on a beaucoup de choses, et on a aussi donc là, tout ce qui est sexuel, qui est au centre des choses. Je reprends les exemples de Mono de Troyes. On a ces personnages qui, leur seul but dans la vie, c'est de voir une femme à poil, en fait. Alors, donc là, on le voit, ils l'espionnent, ils essayent de voir, et qu'est-ce qu'ils se demandent? Est-ce qu'elle a des poils? Oui, elle a des poils. Pareil, un peu plus tard, quand il y en a un qui fait se croire à ses copains qu'il peut voir à travers les temps des filles, la question c'est est-ce qu'elle a des poils? Oui, elle en a plein. D'accord, la question des poils. Ils sont même capables de faire une machine pour voir sous les jupes des filles et ils découvrent quoi? Que la fille a plein de poils sur les fesses. Donc on voit que finalement, les poils, là, ça dévoile vraiment la puberté, hein, parce que c'est ce qui apparaît à cette époque, c'est le questionnement des adolescents. Qu'est-ce que le corps? Comment ça vient? Et le fait que ce soit dans un contexte imaginaire, ça permet de faire des filtres, ça permet d'un peu moins choquer déjà, et puis ça permet de permettre plus de choses, de permettre plus de questions, de voir plus de choses. C'est pour ça qu'on a des ouvrages de littérature érotique, mais féerique. Du coup, on nous montre des filles à poil, mais en fait, c'est des elfes, donc ça passe un peu mieux parce que elles n'existent pas dans le monde réel, donc elles ont les mêmes formes, mais ça passe mieux quand même. Alors, je vous mets des exemples ici du donjon d'Albuck, voilà, avec l'elfe qui a un charisme, ou l'elfe qui se baigne. On voit quand même que voilà, l'identité, c'est quelque chose qu'on vient assez. On a aussi beaucoup de personnages qui vont attirer physiquement les héros pour les faire venir dans leur monde. Donc là, voilà, j'ai deux exemples. La Charmoiselle, qui est une fille qui séduit un homme et qui se transforme en monde pour dévorer, ou pareillement à côté, la Mosaïra, pareil. Hein. Donc ça, c'est plutôt des reprises de légendes traditionnelles, parce qu'on montrait que ce n'est pas d'aujourd'hui. Les questions d'adolescence, de puberté, de sexualité, ça a toujours été lié aussi à ces personnages. Et justement, c'est un moyen de faire exutoire, en fait, de faire ressortir ces questions, de pouvoir en fait, être beaucoup plus libre dans ces interrogations. Ça, on le voit aussi dans Peter Pan, par exemple, hein, dans la version de Loisel, on montre que Peter Pan, en fait, s'il fuit le monde des hommes, c'est tout simplement parce qu'il est dégoûté par la sexualité. En fait, hein, il se fait appeler par une prostituée qui touche les seins, et lui, il s'échappe en criant adulte, sale adulte. On voit qu'il est dégoûté par la sexualité, et donc il fuit dans un monde qui est un monde de l'enfance, qui n'est pas censé être sexualisé. Oui, mais non, en fait, parce que les sirènes proposent à Peter de le déniaiser à plusieurs reprises, donc ils sont quand même bien sexualisés. Vous avez aussi, je vous invite à voir l'œuvre de Disney, dans un nouveau regard, hein, quand les sirènes avaient le noyau éthique qu'elle propose à Peter. Quand elle parle à Peter, vous verrez la voix de la version française qui est quand même assez aguicheuse, en fait, finalement, c'est pas si on sent ça. Donc voilà, la sexualité qui est vraiment quelque chose, qui est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, vous avez aussi dans Requiem pour Elfe Noire tout un réseau de prostitution et de films pornographiques. En fait, hein, on est dans un ghetto et en fait, ils font venir des immigrés féeriques dans ce ghetto et pour leur faire payer leur droit de passe, ils doivent jouer dans des films pornographiques. Et là, la pornographie, c'est un moyen de montrer la déchéance de la société. Parce qu'on est dans un ghetto qui, les hommes ont laissé le ghetto, ils sont un monde complètement pourri, ils sont partis. Sont transformés en vampires d'ailleurs, enfin, voilà, c'est pour montrer vraiment la déchéance de cette société qui est totalement en perte de repère. Et là, on peut du coup se dire que, à travers cette vision, finalement la féerie, c'est plus vraiment une littérature d'évasion, mais c'est plutôt l'idée que Tolkien en avait d'abord, on a un pneu qui sort de la Terre. Ça montre en fait que l'homme a changé la nature du monde, c'est lui qui a corrompu le monde, qui fait qu'en fait, son propre impact, sa propre pollution, c'est devenu plus naturel que la pousse des arbres. Et à un moment, il y a un réverbère qui pousse comme un arbre pousserait en fait. Il y a vraiment ce côté-là de pollution. Et là, on voit très bien sur l'image, on voit qu'on a la partie à gauche, on a encore un côté un peu naturel, avec le ciel bleu, derrière la mer, etc., un champ. Et puis à côté, là, on a tous les revenus de la société, un monde en ruine complètement en destruction. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le bande dessinée, fait étant d'automate. Là, on est dans un contexte post-apocalyptique aussi. On a un monde, on voit un peu sur ces images, les humains sont complètement violents, sont en guerre. Et en fait, en bas, les derniers personnages, ce sont des automates. C'est créé par un genre de. Voilà, c'est un peu une vision de Pinocchio, si vous voulez, c'est des automates. Et finalement, les automates sont plus humains que les hommes. Parce que eux ont des sentiments, alors que les hommes n'en ont plus du tout. Parce qu'ils ont tellement détruit leur monde qu'ils n'ont plus rien. Tellement plus rien que, en fait, on voit sur cette image, même leur champagne, ils viennent souvent de gélules à jour des enfants. Ils ont absolument tout perdu. Et là, donc, à travers ces images, on voit que la modernité et la féerie sont un peu opposées. Ce qu'on avait déjà chez Anderson, industrielle, lui il avait déjà mis un frein en disant attention, l'industrialisation à outrance, c'est pas forcément bien, ça fait perdre la magie du monde. C'est ce que Tolkien aussi a voulu montrer. Alors, Tolkien, son œuvre, c'était vraiment ça. Il a voulu montrer, Tolkien a voulu même redonner le pouvoir aux plantes en fait, en faisant que les Ents ont battu la forteresse d'acier qui représente vraiment l'industrie de masse, voilà, que les Ents gardent. Donc il y a vraiment ce côté, l'industrie fait perdre la magie du monde. Les hommes, ils auraient volé le feu divin pour leur donner, ce qui fait qu'ils ont eu tellement de pouvoir qu'ensuite ils ont fait n'importe quoi. C'est ça, les hommes sont trop ambitieux et qu'ils ont tendance à aller beaucoup trop loin. C'est un petit peu comme si en fait, l'industrie, la science, etc., étaient montrées comme une boîte de Pandore qu'on aurait ouverte et qui laisserait faire complètement n'importe quoi. Ça, on le voit dans le champ du troll dont je vous parlais tout à l'heure. On a une ville, donc là, la petite ville, qui est une ville complètement grise. Déshumanisée, on voit les personnages qui sont juste des ombres, pas de visage, il y a plus rien, c'est gris. Et c'est mis en parallèle avec le monde féerique où on a les plantes qui prennent le dessus, en fait la végétation prend le dessus sur la vie, et là ça y est, on a des couleurs, on a des personnages, on a des sentiments qui peuvent être beaux. La même chose là, on voit que l'aide, quand il est présent, mais finalement il y a des arbres qui commencent à prendre le dessus, à creuser les voitures, et au final on se retrouve dans une petite barrière comme ça, vraiment colorée, où la petite fille elle est heureuse dans son art et son temps. Donc là finalement c'est un petit peu comme si les auteurs voulaient montrer à travers ces œuvres voilà, il faut faire attention, on va peut-être approcher la fin du monde, mais parce que nous, on l'aura causé nous-mêmes. C'est ce que dit d'ailleurs Petrus Berbiger, qui est le personnage de Pierre Dubois, qui nous dit qu'en fait, le fait de remonter au conte, au mythe, de redévelopper cette littérature, ça nous rapproche de nos sources et ça va nous permettre d'avoir une vision un peu plus ancienne du monde et plus respectueuse de la nature en fait. Donc finalement, par là, le petit peuple, est plutôt montré comme un moyen dans la fiction contemporaine de raviver les anciennes croyances et le culte de la nature, hein, puisque c'est ça, les ondines, c'est les divinités des fleuves, les divinités des arbres, des naïades, etc., qui vont permettre de redonner vie à la nature, de représenter l'âme de la nature, en fait, quelque sorte. Et ça va rappeler au lecteur qu'il faut protéger cette nature, qu'il faut faire attention, parce que sans elle, on ne peut pas vivre non plus. On peut parler alors du coup d'écologie spirituelle, c'est le terme de Pierre Dubois qui dit que le merveilleux c'est l'écologie de l'âme. C'est un moyen à la fin de sauver la terre, l'écologie, mais c'est aussi un moyen de se sauver soi-même, parce que nous aussi on se met en danger par nos actes. On le voit aussi par exemple dans l'univers féerique d'Edouard Brazet, qui est aussi un auteur qui dit femme, psychologue aussi, qui nous dit en fait que si on nie les esprits de la nature, ça va avoir un prix. Ce prix, ça peut être les désastres écologiques, la pollution, etc. Et finalement, si l'homme craignait, comme autrefois, la vengeance des entités supérieures, et bien il agirait autrement. Et lui, il se pose la question si le fait que ces dernières années, il y ait plus en plus sur la pression de tremblement de terre, ce serait pas un avertissement des gnomes, par exemple. Il dirait, oh, stop, c'est notre monde, c'est nous qui nous gardons. Donc il y a un peu ce côté-là, les auteurs vraiment le font volontairement. Quand on leur pose la question, ils le font en ayant conscience de cela. On a aussi Pierre Dubois qui nous dit qu'en fait la société aujourd'hui elle a peur de la merveille parce que c'est quelque chose qui la met mal à l'aise. Qui, contrairement à la science qui est plutôt quelque chose d'assez précis, on sait de quoi on parle, etc., même si on n'a pas tout encore découvert, voilà, ça se et qui ont tendance un petit peu autodestructrice en fait. Donc voilà, c'est ce manque de foi, de cette valeur qui permet de mettre, enfin, qui est mis en scène en fait dans ces fictions. Donc l'écologie spirituelle dont je vous parlais, c'est un moyen un petit peu de renouer avec les croyances anciennes et de redonner ses repères à la société, puisqu'on repart à des choses qu'on a toujours développées dans notre imaginaire. Et pour cela, les auteurs aujourd'hui peuvent agir de deux façons différentes. La première, ils peuvent effectuer ce qu'on appelle un travail d'archéologue, ça veut dire qu'ils vont recenser les récits folkloriques qui existaient autrefois et qui existent encore aujourd'hui dans les campagnes, dans certains endroits, etc. Ça, c'est vraiment un travail. On travaille sur la tradition telle qu'elle est encore vivace. Et puis, il y a l'autre travail, c'est le fait de faire des créations inédites, d'inventer totalement quelque chose qui n'a pas été fait dans la culture populaire et d'adapter le contenu de ces histoires à la société à qui elles sont destinées. On ne va pas non plus écrire la même chose si on s'adresse à un public jeune, un public plus vieux. On ne va pas écrire la même chose en France qu'au Japon, par exemple. On n'a pas la même vision du monde, on n'a pas la même conception. Donc on adapte aussi ce genre de choses. Donc le but finalement de tout ça, c'est un but de réenchantement du monde. Les auteurs ont envie de réapporter la magie, parce que ce petit peuple, c'est ça, c'est la personnification de la magie en fait. Donc de développer un corpus avec des personnages, c'est une manière de réenchanter le monde en fait. Et de transmettre une morale qui est finalement de redonner à l'humanité sa sagesse et de redonner finalement à l'homme l'espoir d'avoir une vie meilleure un jour en respectant un petit peu plus la nature. Et puis c'est aussi un moyen de retourner aux sources de l'homme, mais que ce soit l'homme en tant que l'humanité, c'est-à-dire nos ancêtres quand ils ont écrit ces premières histoires, etc., retrouver quelles étaient leurs valeurs, ce qui est une manière de vie différente d'une autre, mais aussi aux sources de soi-même en tant qu'homme, c'est-à-dire parce que quand on était enfant, les premières histoires qu'on a eues, c'était aussi des contes de fées. Donc, de se replonger dans cet univers, ça permet de nous rappeler qui on était. Parce que les enfants, ils ont une vision un peu plus naïve du monde, mais souvent, ils comprennent un peu plus les choses, ils sont un peu plus sensibles, par exemple, à la façon dont on traite les animaux, par exemple. Et donc, voilà, c'est aussi un moyen de se rapprocher de cette humanité-là et de retrouver qui on était finalement avant. Donc, pour conclure très rapidement, partir de l'hypothèse que la féerie, c'est un peu une mode aujourd'hui qui se développe pour montrer en fait qu'il y a un témoignage, comme toutes les œuvres littéraires, hein, des problématiques de notre société. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Quelles sont ces problématiques? Et c'est aussi, c'est ça qui est important, c'est que vu que c'est une matière qui a évolué en même temps que l'humanité, qui a toujours été là et qui a résisté, contrairement à certaines religions par exemple, qu'on a complètement oubliées, qu'on a arrêtées, eux ils sont restés. Parce que c'est une matière brute à qui on peut faire dire beaucoup de choses et qui est capable finalement de s'adapter vraiment à toutes les problématiques et à toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, peu importe l'époque et les auteurs qui ont décidé de les développer. Et puis enfin, je vous parlais de la conscience collective, c'est aussi peut-être juste un moyen de voir qu'en fait, vu qu'il y a des histoires presque similaires qui se sont développées dans des coins du monde où les gens n'étaient pas du tout en lien ou a priori jamais communiqué, bah c'est peut-être un peu un moyen de dire que finalement l'être humain n'aurait toujours qu'une seule façon de penser et que ces personnages sont un moyen de le prouver finalement. Donc voilà, j'espère que j'étais un peu claire.